les complots ourdis par Judas et les Sanhédrins. Le pouvoir craint Jésus, son emprise sur les cœurs et sur les intelligences. Le pouvoir est contre le Seigneur pour une raison d'influence. Jésus est vraiment le signe des contradictions annoncées à Marie par les vieillards Siméon. Personne étrange et unique qui connaît son destin de souffrance et l'envisage comme le but nécessaire de sa venue ici-bas. Quelques heures avant son arrestation, Jésus dit à ses disciples, « Vous savez que dans 2 jours aura lieu la Pâque, eh bien, c'est le moment où le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Évangile de Matthieu 26, 2. Et il a vécu avec cette souffrance constamment devant les yeux. Il vit avec la croix, avec toute l'horreur de la croix, et sa grandeur d'âme sera telle que cette vision, cette connaissance parfaite de son destin de douleur, loin de l'empêcher de s'épanouir et de se donner, loin de l'affoler, lui feront prononcer ses plus belles paroles, accomplir ses plus beaux gestes d'amour au cours de la scène. Le Fils de l'homme gêne le pouvoir établi, tant est grande sa liberté de pensée et de parole. Il en mourra. L'amitié des foules n'arrivera pas à les sauver. Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent dans le palais du grand prêtre nommé Caïphe et tinrent conseil afin de s'emparer de Jésus par ruse et de le mettre à mort. Évangile de Matthieu 26, 3 à 4. Mais il disait, pas pendant la fête, pour qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Évangile de Matthieu 26, 5. Dieu laisse agir nos libertés. En nous créant, il en a pris le risque. Il en mourra en son Fils Jésus, Fils de l'homme, trahi par un ami et livré au pouvoir. On rejoint là le sacrifice de Jésus, qui lui-même rejoint l'homme dans sa souffrance foncière. L'homme est fragile, mortel, et cela Jésus l'accepte. Mais sa réflexion va encore plus loin. Il rejoint l'homme torturé par la méchanceté de l'homme à travers tous les siècles, l'homme livré à l'acharnement des hommes. Et son sacrifice, c'est de prendre la fragilité de l'homme jusque dans la déréliction du condamné, du crucifié. Il a voulu connaître la désespérance de la mort cruelle qui frappe tant d'hommes à travers tous les siècles. Merveilleux Seigneur et merveilleux Père qui, dans sa tendresse pour l'homme, lui donne un tel Seigneur. La trahison de l'ami. Judas, celui qui trahit le Seigneur, nous fait remarquer Luc, était l'un des 12, l'un de ses préférés. On imagine facilement la souffrance de Jésus quand il s'aperçut de l'emprise de plus en plus forte du démon, de l'ambition et de la cupidité dans le cœur de cet homme qu'il avait choisi, l'un des 12. Les démarches de Judas, ses manœuvres, ne lui échappent pas. Il a suivi anxieux l'envahissement de Satan dans ce cœur depuis les premières déceptions devant une doctrine du détachement jusqu'à la trahison. Il a vu ses démarches, ses marchandages, et Judas se rendit pour parler avec les grands prêtres, évangile de Luc 22, 4. Il a vu son désir de le perdre, de le livrer à ses ennemis. Il discutait avec eux comment le leur livrer, évangile de Luc 22, 4. Il a senti cet homme rôder, s'inquiéter pour trouver le meilleur moyen de le livrer, loin de la foule, loin du peuple où Jésus compte trop d'amis. Et Judas cherchait avec eux le moyen de le leur livrer en dehors de la présence des foules. Évangile de Luc 22, 6. Il est bon de voir que les volontés libres de Judas et des ennemis de Jésus s'opposent à lui en premier lieu parce que le pouvoir et l'argent les ont grisés. Judas voulait le pouvoir pour être riche, car, nous dit l'Évangile, il aimait l'argent. Les princes des prêtres, les pharisiens et les scribes, eux, se montrent contre Jésus parce qu'ils gênent leur propre influence sur le peuple. Judas connaissait les habitudes de Jésus. Il trouvera la solution, mais ce sera la nuit, car le traître a sans doute pensé à ce moment idéal où le Christ prendra le repas de la Pâque la nuit seul avec ses disciples. L'affaire sera facile avec les soldats. Alors l'un des 12, nommé Iscariote, s'en était allé vers les grands prêtres, leur dit, « Que voulez-vous me donner, et moi je vous le livrerai. » Ceux-ci lui assurèrent 30 pièces d'argent, et dès lors il cherchait une occasion pour les livrer. Évangile de Matthieu 26, 14 à 16. Mais Jésus le prévient, il l'a deviné, et d'un coup de maître le paralyse. Il donne des indications à Pierre et Jean, dont Judas ne peut tirer aucun parti. Voici, quand vous entrerez dans la ville, il se rencontrera près de vous un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une chambre à l'étage, grande, munie de tapis, faites-y les préparatifs. Évangile de Luc 22, 10 à 12. Jésus vivra tranquille les heures de la scène et ne sera arrêté qu'au jardin des Oliviers. Judas, qui savait cette habitude de Jésus depuis quelques jours, va y conduire une troupe. Tout cela nous permet de comprendre la souffrance morale du Seigneur face à l'amitié détruite, saccagée, qui conduit l'ami jusqu'au crime. Jésus fait préparer la salle de son dernier repas. Jésus se montre extraordinaire. Devant Judas, il indique où la fête va se dérouler, mais le code en est si secret que l'Iscariote ne saura rien. Et le maître de la maison vous montrera une chambre à l'étage, grande, munie de tapis, toute prête. Et c'est là que vous ferez les préparatifs de la Pâque pour nous. Évangile de Marc 16, 15. Dans la préparation de la scène, on perçoit l'amitié profonde qui unissait Jésus et les 12. Il veut d'abord préserver l'intimité de cette fête où il va leur révéler un amour insensé dans la fraction du pain. Dieu ne pouvait aller plus loin. Son corps livré, son sang versé. Mais Jésus savait que Judas rôdait. Il fallait donc qu'il ignore les lieux de cette fête du cœur, afin que nul ne vienne troubler la plus grande fête de l'amitié inventée par Dieu. Se sachant trahi et suivi, Jésus organise avec le plus grand calme ce repas fantastique d'adieu. Il s'arrange pour que Judas ne puisse agir que lorsque lui le voudra. Seuls Pierre et Jean sont invités à suivre l'homme à la cruche. C'est Jésus lui-même qui livre son âme et personne ne peut la lui ravir. Il y a aussi cette préoccupation de Jésus qui veut que la fête de la nouvelle Pâque trouve un cadre digne du mystère de l'amitié entre Dieu et l'homme. Début de la scène. Le soir de la Pâque, Jésus se retrouve avec les siens. Et lorsque l'heure fut venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Évangile de Luc 22, 14. Hanté par la passion si proche, cette heure où il accepte pour nous tous de dire oui à la volonté du Père, oui à la mort, Jésus laisse parler son cœur. Dans cette lutte, il a besoin de s'appuyer sur l'amitié. « J'ai tant désiré manger avec vous cette Pâque avant de souffrir. » Car je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle trouve son accomplissement dans le royaume des dieux. Évangile de Luc 22, 15 à 16. Quelle joie pour lui de se retrouver avec les siens, de se donner à eux totalement autour de cette table amicale, de parler avec eux, de refaire ensemble les gestes des réunions fraternelles. cette coupe qui passe de main en main, en louant Dieu avec les merveilleux cantiques des ancêtres. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que soit venu le règne de Dieu. » Évangile de Luc 22, 17 à 18. Il est venu pour cette heure, l'heure de l'amitié, où il se donnera entièrement aux siens. Combien de fois n'y a-t-il pas pensé depuis ce discours sur le pain de vie, après la première multiplication des pains au bord du lac? Il avait osé dire alors, « Mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra à jamais. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. » Évangile de Jean 6, 51. Le lavement des pieds au début de la scène. Au début du repas pascal, l'Évangile souligne la violence de l'amour pour que Jésus porte aux siens. Or, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima extrêmement. Évangile de Jean 13, 1. En définitive, venu du Père, c'est dans ce Père qu'il nous voit. Tout près de retourner vers son Père, il passe tout naturellement de sa famille divine qu'il va réintégrer à ses amis qu'il va quitter, mais qu'il veut introduire, inviter à la table divine. Jésus est un ami fidèle. Il se souvient du jour de la multiplication des pains, où après les discours sur le pain de vie, les amis d'un jour le quittent. Il se souvient de sa question brûlante aux 12, « Et vous, voulez-vous me quitter ?» Ils sont restés, et ils ne l'oublient pas. Quant à vous, vous êtes ceux qui, dans mes épreuves, êtes demeurés constamment avec moi. Évangile de Luc 22, 28. Ce qui brûle son cœur vis-à-vis des siens, c'est cet amour infini, venu de la Sainte Trinité, car les intentions de son Père à son égard, voici ceux dont il rêve de faire bénéficier ses amis fidèles, ceux qui sont restés. Et son amour est tellement grand à leur égard que c'est ce même amour dont le Père l'aime qu'il veut voir se déverser à grands flots et à gros bouillons sur ses amis. Et moi, selon que mon Père a disposé d'un royaume en ma faveur, j'en dispose en votre faveur. Évangile de Luc 22, 29. Et pour bien montrer que nous serons chez lui, dans notre vraie famille, dans la famille de Dieu, près de lui, il nous invite à sa table. Je dispose donc de ce royaume en votre faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Évangile de Luc 22, 30. Qui invite-t-on à sa table sinon ses amis, ses intimes? Ses amis, ses disciples d'ailleurs, le respectaient et l'aimaient, lui décernant les noms de Maître et Seigneur. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Évangile de Jean 13, 13. Et pour leur montrer de ce que l'amour est capable, ils se lèvent de la table pour laver leurs pieds comme un esclave. Et Pierre, s'il résiste à Jésus quand celui-ci veut lui laver les pieds, change immédiatement d'avis devant la menace d'une séparation. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. Évangile de Jean 13, 9. On ne peut être plus enthousiaste. Jésus dénonce la trahison. Jésus avait développé une extraordinaire amitié entre lui et ses disciples, que traduit si bien la stupeur des siens lorsque durant la scène il affirme « L'un de vous me trahira ». Les disciples se regardaient les uns les autres incertain de qui il parlait. Évangile de Jean 13, 21-22. Le mystère du Fils de l'homme, c'est le mystère de cette entrée silencieuse des dieux dans notre mort. Dieu avait arrêté, décrété de nous, sauvés sans discours, sans paroles bavardes, en passant par la mort. Mais pourquoi fallait-il y ajouter la cruauté de la croix et la trahison d'un ami? D'ailleurs, voici que la main de celui qui m'est trahi est avec moi sur la table, car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est décrété, mais malheur à cet homme-là par qui il est trahi. Évangile de Luc 22, 21 à 22. Et pourtant, lui ne trahira pas. Quand Jésus bouleversé annonce aux siens au cours de la scène, « En vérité, l'un de vous me trahira », tous ses amis, extrêmement attristés, commencèrent à lui dire « Serait-ce moi, Seigneur ?» Jean souligne combien l'attitude de Jésus vis-à-vis de Judas est extraordinaire. Jésus ne trahit pas son ami, et même les paroles qu'il adresse à Judas à ce moment ne furent nullement accusatrices pour lui. Donc Jésus lui dit « Ce que tu vas faire, fais-le au plus vite. » Or, cela, personne de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il le lui dit. Évangile de Jean 13, 27 à 28. Jésus institue l'Eucharistie. Le plus grand acte de liberté et d'amour de Jésus envers nous, les hommes, se réalise au moment où il se livre à la mort pour nous. Et c'est ce corps livré, ce sang répandu, qui est en même temps le signe de son abandon à la volonté du Père, et le signe de son amitié pour les hommes. Il nous entraîne alors avec lui, au-delà de la mort, vers la résurrection et la vie éternelle. Et ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et ayant pris la coupe de la même manière après le repas, il la leur donna en disant, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance dans mon sang répandu pour vous. » Évangile de Luc 22, 19 à 20. Simplicité des gestes et des paroles qui réalisent en quelques mots la chose la plus inouïe du monde, le geste fou d'un Dieu, car que dire devant un tel geste? Jésus, au moment de l'institution de l'Eucharistie, renoue avec tous les sacrifices offerts à Dieu dans l'Ancienne Alliance, car il est la victime offerte au corps livré, au sang répandu sur l'autel. La victime au temple était placée sur l'autel et son sang répandu sur l'autel. Moïse, au jour de l'Alliance, asperge même le peuple avec le sang de la victime. Mais la nouvelle alliance, c'est tout autre chose. C'est l'acceptation totale de la mort par le Fils de l'homme et l'invitation à s'emparer de ce corps livré, de ce sang versé, dans une communion profonde à la volonté du Père, comme le Fils bien-aimé s'y est abandonné sur la croix. Le sacrifice auquel nous convie Jésus, ce n'est donc pas sa mort sanglante, résultant de la méchanceté des hommes, mais le oui à notre condition mortelle, telle que le Père l'a voulu pour nous. Jésus s'engage là, sur le chemin de la foi, où tous nous devons le rejoindre un jour. Jésus a vécu dans toute son intensité la réalisation du plan de Dieu sur lui. Il a vu sa mort rédemptrice venir pour que l'homme, mourant avec lui, soit promu à la gloire de la résurrection. Le miracle de l'amitié, l'Eucharistie. Le miracle de l'amitié entre l'homme et son Dieu se réalise au soir du Jeudi Saint à la Seine. Jésus nous quitte, mais son amour trouve les moyens de nous rejoindre en nous offrant le pain et le vin devenus son corps livré, son sang versé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et aujourd'hui encore, C'est le Christ ressuscité que nous recevons, gage de notre propre résurrection, si nous savons accepter comme lui la volonté du Père. Car au soir de la scène, Jésus donne à ses amis le pouvoir invraisemblable de rendre à jamais présent parmi nous ce corps donné, ce sang versé. Et ayant pris du pain et rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ayant pris la coupe de la même manière, après le repas, il la leur donna en disant, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance dans mon sang répandue pour vous. » Évangile de Luc 22, 19 à 20. C'est vraiment là le geste définitif du Fils de l'homme qui nous réconcilie avec Dieu. Il nous livre à jamais son corps et son sang, symbole de cet abandon total à la volonté du Père. Il institue ici la nouvelle alliance, les banquets de la résurrection où tout homme est convié. Dans cette communion au corps livré, au sang versé, nos joies, nos souffrances, notre mort même prennent un sens d'éternité, car le Père nous y confond dans un même regard d'amour avec son Fils bien-aimé. C'est les banquets de la nourriture qui demeurent pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme nous donne, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Évangile de Jean 6, 27. Parole prononcée par Jésus après la multiplication des pains. Elles annonçaient aux Juifs ce qui arrive aujourd'hui. Jésus, d'ailleurs, ce jour-là, au bord du lac, soulignant déjà à ses auditeurs que son sacrifice réside tout entier dans son abandon à la volonté du Père, « Parce que je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Évangile de Jean 6, 38. D'ailleurs, pour ce même Juif, la vie réside essentiellement dans le sang. Aussi l'expression « ce corps livré, ce sang versé » évoquait-elle parfaitement pour eux l'abandon de Jésus à la volonté de son Père dans la mort. Dans cette salle haute du Cénacle, cette salle qu'il a voulu belle pour la rencontre de l'amitié, Jésus devient pour les siens, pour tout homme, la nourriture essentielle. Il nous permet de comprendre l'essence de nos vies, de franchir les murs de l'absurdité où se heurte tout homme. Pourquoi nous avoir créés intelligents, pétris d'amour et voir mourir tous ceux que nous aimons? Dieu serait-il un monstre qui se joue de nous? Mais voici la réponse étonnante dans la bouche même de Jésus. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour, car telle est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Évangile de Jean 6, 39 à 40. Jésus, par anticipation, dans son discours sur le pain de vie à Capharnaüm, nous livre lui-même la plus belle et la plus simple des explications sur la messe, sur l'Eucharistie et sur la communion. Une explication qui ne peut se comprendre que dans la foi. Car il ne s'agit pas d'une explication rationnelle, mais de la réponse de l'amour à nos angoisses. « Je suis le pain de la vie. » Évangile de Jean 6, 48 à 58. « Vos pères ont mangé la manne dans les déserts, et ils sont morts. C'est ici le vrai pain descendu du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra à jamais. » Et le pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. Les Juifs discutaient donc entre eux en disant comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous ne posséderez pas la vie en vous. Celui qui dévore ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment, vraiment un breuvage. Celui qui dévore ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui vit m'a envoyé, et je vis par le Père, ainsi celui qui me dévore, celui-là vivra pour moi. C'est ici le pain descendu du ciel, non pas tel que celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Celui qui dévore ce pain vivra à jamais. Il dit cela dans une instruction de la synagogue à Capharnaüm. Évangile de Jean 6, 59. Jésus donne au ciel les grands commandements.